Chapitre 29. Quand on est ensemble. La nuit, j'ai eu froid. Je me suis levé et je suis allé lui mettre une deuxième couverture. Romain Gary. Aéroport Charles de Gaulle, dimanche 12 septembre. Le chauffeur de taxi empoigna le sac de Billy et le fourra dans le coffre avec autorité, écrasant au passage la besace qui contenait mon ordinateur. Dans l'habitacle de la Prius hybride, la radio était poussée à un tel volume que je dus m'y reprendre à trois fois pour donner ma destination au conducteur. La voiture quitta le terminal et se retrouva rapidement engluée dans les embouteillages du boulevard périphérique. « Bienvenue en France, » dis-je en faisant un clin d'œil à Billy. Elle haussa les épaules. « Tu ne réussiras pas à me gâcher le plaisir d'être ici. C'était mon rêve de voir Paris. » Après quelques kilomètres de bouchons, la voiture sortit porte Maillot avant de s'engager sur l'avenue de la Grande Armée et de continuer jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. Comme une enfant, Billy restait bouche bée, découvrant successivement l'Arc de Triomphe, la plus belle avenue du monde, ainsi que les vertiges de la place de la Concorde. Même si j'y étais venu plusieurs fois avec Aurore, on ne pouvait pas dire que je connaissais bien Paris. Toujours entre deux concerts et entre deux avions, Aurore était une nomade qui n'avait jamais pris le temps de me faire découvrir sa ville de naissance. Mais ses jours n'avaient de toute façon jamais excédé deux ou trois jours d'affilée, que nous passions généralement enfermés dans son bel appartement de la rue Lascaz, près de la basilique Sainte-Clotilde. De la capitale, je ne connaissais donc que quelques rues du 6e et du 7e arrondissement, et une dizaine de restaurants et de galeries à la mode où elle m'avait entraîné. Le taxi traversa la Seine pour rejoindre la rive gauche et tourna au niveau du quai d'Orsay. En apercevant le clocher et les contreforts de l'église Saint-Germain-des-Prés, je compris que nous n'étions plus très loin de l'appartement meublé que j'avais loué par Internet depuis le Mexique. Effectivement, après quelques manœuvres, le chauffeur nous laissa au numéro 5 de la rue Fürstenberg, devant une petite place toute ronde, bordée de boutiques anciennes, assurément l'une des plus charmantes qu'il m'eût été donné de voir. Sur un terre-plein central, quatre hauts polonias entouraient un lampadaire à cinq globes. Le soleil se reflétait sur les toits bleus en ardoise. Perdu entre les rues étroites, loin de l'agitation du boulevard, l'endroit était un îlot intemporel et romantique, tout droit sorti d'un dessin de Pénet. Au moment où j'écris ces lignes, plus d'un an a passé depuis ce matin-là, mais le souvenir de Billy descendant de la voiture et ouvrant des yeux émerveillés est encore bien présent dans mon esprit. À l'époque, je ne savais pas que les semaines que nous nous apprêtions à vivre seraient à la fois les plus douloureuses et les plus belles de notre vie. Internat pour filles, campus de Berkeley, Californie. « Un paquet pour toi ?» cria Yu-Chan en entrant dans la chambre qu'elle partageait depuis la rentrée universitaire avec Bonnie Delamico. Assise à son bureau, Bonnie leva la tête de son ordinateur et remercia sa roommate avant de replonger dans sa partie d'échecs. C'était une adolescente aux cheveux bruns coupés courts et au visage ouvert qui gardait encore les rondeurs de l'enfance. Mais à son regard concentré et sérieux, on devinait que, malgré son jeune âge, la vie n'avait pas toujours été facile pour elle. Le soleil d'automne dardait ses rayons à travers la fenêtre, illuminant les murs de la chambrette recouverts d'affiches hétéroclites qui traduisaient les passions des deux adolescentes. Robert Pattinson, Kristen Stewart, Albert Einstein, Obama ou le Dalai Lama. « Tu ne l'ouvres pas ?» demanda la chinoise au bout de quelques minutes. Marmonna Bonnie d'un air distrait. « Laisse-moi juste flanquer une raclée à cette machine. » Elle tenta une manœuvre osée, avançant son cavalier en D4 pour espérer prendre le fou de son adversaire. « C'est peut-être un cadeau de Timothy ?» hasarda Yu-Chan en examinant le paquet. « Il est red dingue de toi, ce mec. »« répéta Bonnie. « M'en fiche pas mal de Timothy. » L'ordinateur contra sa manœuvre en sortant sa dame. « Bon, je l'ouvre alors !» décida l'Asiatique. Sans attendre l'assentiment de sa copine, elle déchira l'enveloppe pour découvrir un gros livre à la couverture de cuir grainé. « Tom Boyd, la trilogie des anges, tome 2. »« C'est le roman que tu as acheté d'occasion sur Internet ?» dit-elle avec une pointe de déception dans la voix. « fit Bonnie. À présent, il fallait qu'elle protège son cavalier, mais sans battre totalement en retraite. Elle cliqua sur sa souris pour avancer un pion, mais emportée par son élan, relâcha la pièce un peu rapidement. Trop tard. Les mots « échec » et « mat » clignotait sur l'écran. Elle s'était encore fait battre par ce maudit tas de ferraille.
Pas de très bon augure pour mon championnat, pensa-t-elle en quittant le logiciel.
La semaine prochaine, elle devait défendre les couleurs de son école lors du championnat du monde des moins de 18 ans. Une compétition organisée à Rome qui l'excitait et la terrifiait tout à la fois. La jeune fille regarda l'horloge murale en forme de soleil et se dépêcha de ranger ses affaires. Elle attrapa le roman qu'elle venait de recevoir et le fourra dans son sac à dos. Elle préparerait sa valise pour Rome plus tard.
« Addio, amica mia !»
lança-t-elle en passant la porte de la chambre. Elle descendit les marches 3x3, puis rejoignit la gare à grande foulée pour rattraper le BART. Le RER local qui reliait Berkeley à San Francisco en traversant la baie 40 mètres au-dessous du niveau de l'eau. Elle commença à lire les 3 premiers chapitres de son livre dans la rame, avant de descendre à la station Embarcadero et d'attraper un cable car sur California Street. Bondé de touristes, le tramway traversa Nob Hill et dépassa Grace Cathedral. La jeune fille quitta le wagon de bois 2 blocs plus loin pour rejoindre le service de cancérologie de l'hôpital Lenox, où elle faisait du bénévolat 2 fois par semaine dans une association chargée de distraire les malades par des activités ludiques ou artistiques. Elle avait été sensibilisée à cette cause en accompagnant pendant 2 ans l'agonie de sa mère, Mallory, morte d'un cancer quelques années plus tôt. Bonnie était déjà à la fac mais n'avait que 16 ans, un âge normalement insuffisant pour participer à ce genre de tâches. Heureusement, Elliot Cooper, le doyen de l'hôpital, était un ami de Garrett Goodrich, le médecin qui avait suivi sa mère lors de ses derniers jours, et il fermait les yeux sur sa présence à l'hôpital.
« Bonjour, Madame Kaufman !»
lança-t-elle d'une voix joyeuse en pénétrant dans l'une des chambres du 3e étage. La simple apparition de Bonnie illumina le visage d'Ethel Kaufman. Pourtant, jusqu'à ces dernières semaines, la vieille femme avait toujours refusé de participer aux ateliers de dessin, de peinture ou de jeux de société organisés par l'association, pas plus qu'elle n'assistait aux spectacles de clowns ou de marionnettes qu'elle trouvait stupides et régressifs. Elle voulait qu'on la laisse mourir en paix, c'était tout. Mais Bonnie était différente. L'adolescente avait du caractère et un mélange de candeur et d'intelligence qui n'avait pas laissé Ethel indifférente. Les deux femmes avaient mis des semaines à s'apprivoiser, mais à présent, leur rencontre bi-hebdomadaire leur était devenue indispensable. Comme elles en avaient pris l'habitude, elles commencèrent par papoter quelques minutes. Ethel interrogea Bonnie sur ses cours à l'université et sur son prochain tournoi d'échecs, puis la jeune fille sortit le livre de son sac.
« Surprise !»
dit-elle en montrant le beau volume. Les yeux d'Ethel étaient fatigués et Bonnie prenait plaisir à lui faire la lecture. Les semaines précédentes, elles s'étaient toutes les deux laissées envoûter par l'intrigue de la trilogie des anges.
« Je n'ai pas pu résister et j'ai déjà lu les premiers chapitres, » avoua Bonnie. « Je vous en fais un rapide résumé avant de reprendre la lecture, d'accord ?»
The Coffee Bean and Tea Leaf. Un petit café de Santa Monica, 10h du matin.
« Je crois que j'ai trouvé quelque chose, » s'écria Carole.
Penchée sur son notebook, la jeune flic s'était connectée sur Internet à la borne Wi-Fi du café. Un mug de caramel latté dans la main, Milo s'approcha de l'écran. À force d'entrer toutes sortes de mots-clés sur les moteurs de recherche, Carole avait fini par tomber sur une page du site d'eBay proposant la vente en ligne de l'exemplaire unique qu'il recherchait.
« C'est dingue ce truc !»
s'exclama-t-il en renversant la moitié de sa boisson sur sa chemise.
« Tu crois vraiment que c'est le bon ?»«
Aucun doute possible !»
trancha-t-il en observant la photo.
« Après le pilonnage, cette couverture en cuir n'existe qu'en un seul exemplaire !»
Malheureusement, la vente a déjà eu lieu, enragea Carole.
L'objet avait été proposé sur eBay quelques jours plus tôt et avait trouvé preneur immédiatement pour la somme dérisoire de $14.
On peut tout de même essayer de contacter le vendeur pour connaître le nom de son acheteur.
Joignant le geste à la parole, Carole cliqua sur le lien qui permettait de visualiser le profil du membre Anna Borro 73, inscrit depuis 6 mois et bénéficiant d'évaluations positives. Carole envoya un courrier électronique dans lequel elle expliquait qu'elle souhaitait entrer en contact avec la personne qui avait acheté cet objet. Puis ils attendèrent 5 bonnes minutes, espérant sans y croire qu'une réponse instantanée allait leur parvenir, jusqu'à ce que Milo perde patience et qu'il rédige à son tour un courrier plus explicite, accompagné de la promesse d'une récompense de $1000.
« Je dois retourner travailler, » dit Carole en regardant sa montre.
« Où est ton coéquipier ?»«
Il est malade, » répondit-elle en quittant le café.
Milo décida de la suivre
et s'installa à côté d'elle dans la voiture de police.
« Tu n'as pas le droit d'être ici. Je suis en service et c'est un véhicule de patrouille. »
Il fit comme s'il n'entendait pas et poursuivit la conversation. « C'est quoi déjà son pseudo ?»«
Anaboro 73 »,
répondit Carole en allumant le moteur. « Bon, Anna, c'est son prénom, on est d'accord. »
« Ça semble logique. »
« Boro, c'est un nom de famille. » Elle n'a pas écrit « Boro », qui est commun, mais « Boro », ce qui fait penser à un diminutif d'un nom allemand.
« Plutôt polonais, non ? Genre « Borowski ». ?»«
Oui, c'est ça. »
« Et le chiffre, tu crois qu'il correspond à sa date de naissance ?»«
Il y a des chances », répondit Milo. Sur son téléphone, il s'était déjà connecté sur le site des pages blanches. Mais rien que dans la région de Los Angeles, il y avait plus d'une dizaine d'Anna Borowski.
« Passe-moi la radio !» réclama Carole en négociant un virage.
Milo décrocha le micro et ne put s'empêcher une petite improvisation.
« Allô la Terre, ici le capitaine Kirk à bord du vaisseau Enterprise, demandant l'autorisation de nous poser à la base. »
Carole le regarda avec consternation.
« Ben quoi, c'est marrant ?»«
Oui Milo, lorsqu'on a 8 ans, c'est marrant. »
Elle s'empara de la radio et avec beaucoup d'autorité.
« Allô, le central, ici le sergent Alvarez, matricule 364B1231. Pouvez-vous me trouver l'adresse d'une certaine Anna Borowski qui serait née en 1973 ?»«
Ok, sergent, c'est comme si c'était fait. »
Paris, Saint-Germain-des-Prés. Notre deux pièces meublées étaient situées au dernier étage d'un petit immeuble blanc qui donnait sur la placette ombragée, et nous nous y sentîmes immédiatement chez nous.
« On va se balader ?» proposa Billy.
Apparemment, l'air de Paris lui avait rendu la santé. Bien sûr, ses cheveux étaient toujours blancs et son teint restait pâle, mais elle semblait avoir retrouvé une certaine forme.
« Je te signale que j'ai 500 pages à écrire. »«
Une broutille, quoi !» plaisanta-t-elle en s'approchant de la fenêtre pour offrir son visage aux rayons du soleil.
« Bon, une promenade rapide alors, juste pour te montrer le quartier. »
J'enfilai ma veste pendant qu'elle se remettait un peu de poudre sur le visage. Et nous voilà partis. Comme deux touristes que nous étions, nous flânâmes d'abord dans les rues étroites de Saint-Germain, nous arrêtant devant chaque vitrine de librairie ou d'antiquaire, consultant les menus de chaque café, furetant dans les boîtes métalliques des bouquinistes qui bordaient la Seine. Malgré les boutiques de luxe qui remplaçaient peu à peu les lieux de culture, l'esprit du quartier gardait quelque chose de magique. Dans ce dédale de ruelles, l'air était spécial et partout on respirait l'amour des livres, de la poésie et de la peinture. Toutes les rues, tous les bâtiments qui jalonnaient notre balade témoignaient d'un riche passé culturel. Voltaire avait travaillé au Procope, Verlaine venait y boire son absinthe, Delacroix avait son atelier rue de Fürstenberg, Racine avait vécu rue Visconti, Balzac s'était ruiné en y installant une imprimerie, Oscar Wilde était mort dans la solitude et la misère dans un hôtel miteux de la rue des Beaux-Arts, Picasso avait peint Guernica rue des Grands Augustins, Miles Davis avait joué rue Saint-Benoît, Jim Morrison avait logé rue de la Seine. Tourny enivrant. Billy, elle, était rayonnante, virevoltant dans le soleil, un guide à la main, attentive à ne rien louper de sa visite. À midi, nous fîmes une pause à la terrasse d'un café. Tandis que j'enchaînais les espressos à l'italienne, je la regardais se régaler, tout sourire, de fromage blanc au miel et de pain perdu à la framboise. Entre nous, quelque chose avait changé. Notre agressivité mutuelle s'était évaporée pour laisser la place à une complicité nouvelle. Désormais, nous étions alliés et nous avions pleinement conscience que les moments passés ensemble étaient comptés, qu'ils étaient fragiles et que nous avions tout intérêt à prendre soin l'un de l'autre.
« Bon, on va par là visiter cette église », proposa-t-elle en désignant le clocher de Saint-Germain.
Pendant que je sortais mon portefeuille pour régler la note, Billy avala une dernière gorgée de chocolat chaud avant de se lever de sa chaise. Comme une enfant qui veut faire sa maligne, elle se dépêcha de traverser la rue tandis qu'une voiture arrivait en sens inverse. C'est alors qu'elle s'écroula brutalement au milieu de la chaussée. San Francisco, hôpital Lenox. Dépitée, Bonnie tourna les pages du roman pour s'apercevoir qu'elles étaient vierges.
« Je crains que vous ne puissiez pas connaître aujourd'hui la fin de votre histoire, Madame Kaufman. »
Ethel fronça les sourcils et regarda le livre plus attentivement. Il s'arrêtait brusquement à la page 266, en plein milieu d'une phrase restée inachevée.
« C'est sans doute une erreur d'impression. Il faudra que tu le rapportes à la librairie. »«
Je l'ai acheté sur Internet. »«
Alors tu t'es fait avoir. »
Vexée, Bonnie sentit le rouge qui lui montait aux joues.
Dommage. Le livre était passionnant et les illustrations à l'aquarelle très soignées.
À table,
lança l'agent de service en poussant la porte de la chambre pour servir les plateaux repas. Comme chaque fois qu'elle venait ici, Bonnie eut droit elle aussi à sa ration. Au menu, soupe de légumes, salade de choux de Bruxelles et cabillaud bouilli. Bonnie serra les dents et se força à prendre quelques bouchées. Pourquoi le poisson baignait-il encore dans son eau? Pourquoi le potage aux haricots verts avait-il cette couleur brunâtre? Et la vinaigrette sans sel, burk.
Pas terrible, n'est-ce pas?
Se plaignit Madame Kaufmann.
Quelque part entre le franchement dégueu et le carrément immonde,
admit Bonnie.
La vieille femme esquissa un sourire. Je donnerais cher pour un bon soufflé au chocolat. C'est mon péché mignon.
Je n'en ai jamais goûté,
fit Bonnie en se léchant les babines.
Je vais t'écrire la recette,
proposa Ethel.
Donne-moi un stylo et ce livre, qu'ils servent au moins à quelque chose.
Elle ouvrit le roman et, sur la première des pages blanches, calligraphia de sa plus belle écriture « Soufflé au chocolat, 200 g de chocolat noir, 50 g de sucre, 5 œufs, 30 g de farine, 50 centilitres de lait demi-écrémé. 1. Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre au bain-marie. Paris, Saint-Germain-des-Prés.
Ouvre les yeux !
Le corps de Billy gisait au milieu de la route. La Clio avait freiné juste à temps pour éviter le choc. Rue Bonaparte, la circulation s'était arrêtée et un attroupement se formait déjà autour de la jeune femme. J'étais penché sur elle, lui relevant les jambes pour permettre au sang de repartir vers le cerveau. Je lui tournai la tête sur le côté et desserrai ses vêtements, suivant à la lettre les instructions que m'avait données le docteur Philipson. Billy finit par reprendre connaissance et retrouva quelques couleurs. Son malaise avait été aussi bref que brutal. Une syncope comparable à celle qu'elle avait connue au Mexique.
« Ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas encore morte, »
persifla-t-elle. Je lui serrai le poignet. Son pouls était toujours faible, sa respiration difficile et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Nous avions rendez-vous le lendemain avec le professeur Clouseau, le médecin que m'avait recommandé Aurore. J'espérais de toutes mes forces que ses compétences seraient à la hauteur de sa réputation. Los Angeles.
Police, ouvrez !
Derrière le Judas, Anna observait l'officier de police qui tambourinait à sa porte.
« Je sais que vous êtes là, Madame Borowski !»
cria Carole en présentant son insigne. Résignée, Anna tourna le verrou et passa un visage inquiet dans l'embrasure.
« Que voulez-vous ?
Seulement vous poser quelques questions à propos d'un livre que vous avez revendu sur Internet. »«
Je ne l'ai pas volé, ce bouquin !»
se défendit Anna.
« Je l'ai trouvé dans une poubelle, c'est tout !»
Carole regarda Milo, qui prit le relais.
« Il faut que vous nous donniez l'adresse de la personne à qui vous l'avez vendue. »«
C'est une étudiante, je crois. »«
Une étudiante ?»«
En tout cas, elle habite sur le campus de Berkeley. »